Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que ça en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 19 novembre. Le mot du jour, neutralisation. C'est dans toutes les radios, toutes les télés, dans tous les papiers, neutralisation. Nous devons tous et toutes être heureux aujourd'hui puisque le monstre, le vilain a été neutralisé. Hein, c'est le terme qui est employé, c'est le terme officiel et qui est repris avec joie par les médias aujourd'hui. Alors évidemment dans ce Canu Info du jeudi, nous allons revenir sur ces attentats de vendredi dernier. Nous allons parler de ce qui s'est passé depuis, de ce qui s'est passé en particulier aujourd'hui. Laurent reviendra sur cette loi d'exception. Nous parlerons de la COP21. Nous parlerons aussi des annulations, hein, de ce que ça amène aussi pas tant ce qui s'est déjà annulé, mais ce qui va s'annuler, en particulier la Fête des Lumières, vous l'avez entendu. Nous parlerons aussi ce soir de l'arrestation arbitraire d'un journaliste aux États-Unis d'Amérique. Nous resterons aux États-Unis d'Amérique pour parler en particulier des républicains, de l'extrême droite aux États-Unis d'Amérique, des réfugiés, de Donald Trump par exemple. Nous parlerons d'autres conséquences, d'autres réactions. Nous parlerons du Black Friday, ouais, vous savez ce que c'est, j'en suis sûre. Nous parlerons par exemple aussi de refus de prélèvement d'ADN, de Greenpeace en l'occurrence, et puis du premier animal génétiquement modifié dans les assiettes.
Alors si vous avez bien écouté le générique, qui est tiré, dont les dialogues sont essentiellement tirés d'un seul film, qui s'appelle Le Président, dont les dialogues étaient de Jacques Audiard, tout ce que dit Gabin notamment est ô combien d'actualité, et on a bien le même discours que ce film qui doit dater des années 60, voire avant, sur les dérives des pseudo-socialistes qui font voter des mesures de droite ou qui soutiennent le patronat. En ce moment, c'est les mesures sécuritaires qui sont votées à l'unanimité ou presque. On pourrait dire que nous avons honte ici à Radio Canu, puisque aujourd'hui donc a été voté au Parlement, avant que ce soit voté demain au Sénat, ce fameux prolongement là de l'état de non-droit dans lequel nous avons glissé depuis vendredi dernier ou samedi matin très exactement. Donc voilà, parmi les députés socialistes, tous ont voté pour. Chez les écolos, 15 sur 18, il y a 3 résistants. Les députés du Front de Gauche, vous savez, Mélenchon et ses amis, qui sont soi-disant vraiment à gauche, eux, ils ont voté pour. Eh oui. comme quoi on peut faire passer des mesures liberticides, voire d'extrême droite, en tout cas d'inspiration d'extrême droite, et être voté par des élus du Front de Gauche. Les radicaux de gauche ont voté pour, l'UDI ont voté pour, les Républicains bien sûr, enfin voilà, etc., etc. Sur l'ensemble des députés de ce beau Parlement, seuls 6 n'ont pas voté pour le prolongement de l'atteinte à nos libertés, puisque c'est comme ça que nous allons appeler ce qui est en train d'arriver en France. Alors, dans les réactions, bien évidemment, il y a celle de Noël, ma mère, hein, qui dénonce le visage sécuritaire pris par le président de la République. Ça nous fait plaisir, il y en a au moins un qui dénonce. Après, pour les autres, c'est un tissu de... je ne sais pas comment qualifier ce genre de propos. Par exemple, Jean-Jacques Urvoas, hein, qui est du PS, il dit « Aucun d'entre nous n'aura d'hésitation au moment de voter ce texte qui sort radicalement de l'ordinaire, mais entend ne pas céder à la tentation de l'arbitraire. » Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais grosso modo, il faut réduire les libertés parce que la sécurité passe avant tout. C'est ce que tout le monde dit finalement dans ce discours bien pensant là, que finalement la liberté c'est pas si important que ça, ce qui compte c'est la sécurité. D'ailleurs, bizarrement c'est le même discours que peut tenir un dictateur égyptien par exemple, hein, ou un dictateur africain de n'importe quel pays d'Afrique où il y a un dictateur, d'Amérique du Sud quand il y avait des dictateurs, etc., etc. On pourrait noter Guillaume Larrivé aussi, des Républicains, qui lui aussi dit, je cite, « Nous n'allons pas nous excuser de prolonger l'état d'urgence et la restriction provisoire des libertés qu'il implique. » Alors provisoire, faut savoir que quand même ce fameux état d'urgence a été prolongé donc de 3 mois ce matin, mais les Républicains voulaient le prolonger beaucoup plus longtemps. On imagine bien qu'ils rêvent même de le prolonger indéfiniment. Mais voilà, même son de cloche du côté de Jean-Christophe Lagarde qui est lui à l'UDI. Donc voilà, je citerai pour terminer là-dessus l'horreur absolue quand un élu du Front de Gauche, André Chassagne, estime, je cite, que le caractère exceptionnel de la tragédie de vendredi a justifié ce que nous pouvons appeler une légalité exceptionnelle. Voilà. L'état de droit disparaît. Voilà. 7 mecs ont fait sauter l'état de droit en France, soutenus par ces élus qui ne nous représentent pas, mais qui représentent sûrement quand même malheureusement une partie de la population. Enfin voilà. Et alors les conséquences, elles arrivent puisque il y avait de la mobilisation prévue pour s'opposer à la mascarade qu'est cette COP21, cette réunion qui a lieu du 30 novembre au 11 décembre à Paris, pour soi-disant trouver une solution à l'échelle mondiale au dérèglement climatique. On sait que l'État français avait déjà fermé les frontières, d'ailleurs vendredi dernier, c'était le premier jour de la fermeture des frontières, donc le jour de l'attentat, les frontières françaises étaient déjà fermées. Et donc voilà, ils ont décidé, tous ensemble, main dans la main, d'interdire toute manifestation. Alors qu'on sait qu'il y avait de grosses mobilisations prévues, hein, on sait que c'est une mascarade, on sait que c'est les principaux pollueurs qui sont là, qui s'arrangent entre eux, que grosso modo le climat n'y gagnera rien ou quasiment rien. Et le Premier ministre Manuel Valls a décidé d'interdire toutes les manifestations, sauf celles qui ont lieu dans un lieu fermé à l'intérieur, c'est-à-dire celles qui sont peu visibles, qui auront pas d'impact sur la population, pas d'impact sur les médias. Bref, si chez vous, tout seul ou avec 5 copains, vous parlez de la COP21, ça lui va à Manuel Valls, mais surtout, surtout, ne descendez pas dans la rue en parler, car ça, c'est déjà mal, voire peut-être est-ce déjà un acte terroriste, hein, parce que s'il interdit les manifestations de la COP21, c'est qu'elles sont dangereuses. Alors, bien évidemment, ils tiennent le discours de « c'est pour la sécurité, c'est pour votre sécurité ». Sauf que les gens qui veulent manifester, ils demandent à descendre dans la rue. Et ils sont tous suffisamment adultes pour assumer les risques s'il y a des risques. Hein. Mais non, M. Manuel Valls, en tant que papa de la nation, en père de ces manifestants inconscients, il leur dit « non, vous pouvez pas sortir, c'est trop dangereux ». Donc voilà, on commence à reculer. Alors, l'ironie de tout ça, c'est que toutes les grandes villes du monde, sauf Paris, sauf Lyon, sauf plein d'autres, vont avoir des grandes marches mondiales pour le climat le 28 et 29 novembre. Alors on sait que celle de Paris est d'office interdite, celle des autres villes de France, c'est en pourparlers, mais vraisemblablement les bruits courent qu'elle serait elle aussi toute interdite en France. Donc voilà, alors... ça commence à réagir un petit peu. Alors, il y a eu un article sur le site Basta de Maxime Combes, qui était très énervé et qui, ça fait quand même plaisir, pousse aux actions illégales, puisqu'il dit, puisqu'on n'a pas le droit de manifester officiellement, et devant la nécessité et devant l'urgence que représente le dérèglement climatique, il faut quand même passer à l'action, et il dit qu'elle soit légale ou illégale, occuper des centres commerciaux, des entreprises privées, des banques, faire des actions ciblées, par exemple pour rendre les transports collectifs gratuits, puisque ça devrait être une mesure de la COP21, obliger tous les transports publics d'être gratuits, ce qui limiterait fortement la présence des automobiles individuelles polluantes. Et voilà, plein de choses. Donc il pousse à l'illégalité, venant de quelqu'un qui est avant tout militant d'attaque. On se dit, si lui, qui n'est pas ultra-radical, commence à s'énerver, ça peut-être faire réagir. Il y aura peut-être quand même, et ça nous rassure, de la mobilisation. On vous tiendra au courant si des manifs, même si elles sont illégales, et là, chacun prendra ses responsabilités, parce qu'il faut savoir que le risque va être énorme, puisque aujourd'hui, ils peuvent arrêter tout le monde, n'importe quand, sans raison, sans passer devant un juge. Donc quand vous allez à une manif, effectivement, aujourd'hui, vous pouvez vous faire arrêter en dehors de toute protection judiciaire, et on sait que déjà la protection judiciaire, c'est pas toujours terrible, mais là il n'y en a plus du tout. Donc il va falloir aussi faire un petit peu attention et savoir les risques que nous encourons.
Oui, juste pour vous préciser, si vous comptiez aller à ces manifestations, c'est celle du dimanche 29 novembre qui est annulée et celle du 12 décembre qui est aussi annulée.
Bah, c'est du début et de la fin
du sommet. Voilà, exactement, c'est deux manifestations précises.
Mais pour l'instant, on a les infos officielles que de la manif parisienne, manifs parisiennes.
Et puis tu parlais du nombre de manifestations à travers le monde, c'est plus d'une cinquantaine de manifestations qui sont prévues, donc c'est beaucoup.
Dans des grandes villes,
dans les grandes villes, il y a des dizaines de milliers d'événements, des conférences, des rencontres, tout un tas de débats qui sont organisés un peu de partout. Et les organisations commencent déjà, les associations, à annoncer que de toute façon, elles vont tenter d'inventer des choses, d'être créatifs. Ouais. Il n'y a pas d'autres moyens actuellement, donc c'est une nouvelle propagande inventer.
Ouais, pour les organisations légalistes, effectivement, il n'y a pas beaucoup de moyens. Ils vont faire des petites réunions avec que des militants, comme ça ne changera rien du tout, bien évidemment, comme on a déjà plein de rencontres à tout moment de l'année pour parler des différents sujets qui nous intéressent et qui n'atteignent pas le public. Qui n'est pas convaincu déjà, donc ça n'a vraiment aucune utilité, à part pour les militants. Mais là, l'objectif, c'était de sortir du monde militant. Alors, juste un petit point sur cette loi sur l'état d'urgence, là, qui a été donc prolongée de 3 mois, avec pas mal de modifications, puisqu'en fait, ils ont repris la loi de 1955, qui avait été faite lors de la guerre d'Algérie, ou des événements, comme on disait à l'époque, qui a été donc voté aujourd'hui, qui sera publié normalement samedi au Journal officiel. Donc il y a pas mal de il y a quelques petits changements dans cette loi, un ou deux qui nous rassurent et d'autres qui nous font très très peur. Alors si on regarde quelques articles, il y a un article, c'est quand même celui un des plus dangereux, qui dit grosso modo que par décret du Conseil des ministres, en Conseil des ministres, c'est-à-dire du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre, l'État peut dissoudre sans passer devant la justice toute association, toute entreprise, tout groupement ayant participant à des actes portant une atteinte grave à l'ordre public. C'est pas des actes de terrorisme, c'est portant atteinte à l'ordre public. On rappelle, l'ordre public, c'est quand tout se passe bien, qu'il n'y a rien dans la rue, que personne ne dit rien. Une manifestation, c'est déjà un trouble à l'ordre public. De là à le qualifier de grave ou pas, finalement, comme il n'y a pas de règle, on nous dit pas, ça devient grave quand il y a 14 banques brûlées, et c'est pas grave quand il y a juste des gens qui crient dans la rue. C'est pas écrit. Du coup, la notion de gravité, elle est juste choisie, décidée par le Premier ministre et les ministres. Donc c'est un gros risque pour les assauts de résistance, qu'elles soient de quel ordre qu'elles soient. Donc ça va être très très important. Et alors ce qui est intéressant dans ce qui a été voté, c'est que ça a des impacts sur la loi numérique, normalement, qui avait été votée juste avant, puisque cette loi, qui était déjà une loi d'atteinte aux libertés individuelles, elle en sort modifiée et renforcée. Notamment, on apprend par exemple qu'une association, quand elle aura été dissoute, ils vont continuer de la surveiller, de surveiller ses activités sur Internet, parce que ses activités doivent disparaître. Donc ils autorisent la mise en place, sans passer devant un juge, de tout moyen de surveillance par internet notamment de ce qui peut se passer chez les personnes participant à l'association, au groupement, à l'entreprise, parce que ça peut concerner des entreprises aussi, dissoutes. Rassurez-vous, ils vont pas dissoudre Total, parce que Total, c'est le principal pollueur en France. Non, ils vont dissoudre des groupes d'activistes. Ni l'extrême droite, vous inquiétez pas, ils ont les moyens, ils ont jamais quasiment dissous les mouvements d'extrême droite. Hein. C'est plutôt de l'autre côté qui est visé. Donc voilà, c'est plutôt inquiétant sur ça. Il y a une mesure qui est assez intéressante aussi dans la restriction à nos libertés, c'est que quand l'état d'urgence s'arrêtera, les mesures qui ont été prises pendant l'état d'urgence continueront. Notamment, si les assos ont été supprimés pendant l'état d'urgence, elles continueront de ne plus avoir le droit d'exister après. Ça, c'est nouveau, parce que dans l'ancien état d'urgence, les mesures prises pendant l'état d'urgence disparaissaient, ça restait naturellement quand on repassait dans une situation normale. Là, non, ça va continuer. Grosso modo, il se donne vraiment beaucoup, beaucoup de pouvoir. Alors, dans les choses relativement positives, il y a la suppression du contrôle de la presse, hein, puisqu'en 1955, l'état d'urgence donnait droit au pouvoir de prendre le contrôle de toute publication. Aujourd'hui, ça a été supprimé parce que ça semble plus d'actualité en 2015, sauf sur Internet. Puisque là, sur Internet, ils ont quasi tous les droits. Alors bien sûr, lemonde.fr sur Internet, ils risquent rien, parce qu'ils sont associés à un journal de presse, etc. Par contre, les autres... ça va être beaucoup plus difficile si vous résistez. Mais on a échappé au pire. Et notamment dans les traîtres socialistes, puisqu'on a Sandrine Mastier, par exemple, et plusieurs de ses collègues, qui ont voulu rajouter ce contrôle de la presse, alors qu'il avait été supprimé. Ils ont déposé un amendement pour que, non, il y ait bien la possibilité de contrôler la presse. Donc, dans les rangs socialistes, hein, on n'est pas du tout dans l'extrême droite, là. C'est une mesure typique d'extrême droite, mais c'est bien pris. Par Sandrine Mastier et ses collègues, ouf, ça a été mis de côté, parce que ça semblait quand même un petit peu gros. Dans les mesures mises de côté, il y avait le blocage non judiciaire des sites internet, qui certes, deux députés voulaient que ça soit fait sans aucun contrôle, alors que dans la loi de 2014, il doit y avoir, d'abord il y a un certain délai entre la découverte, les annonces et l'intervention, et puis il doit y avoir au moins une réponse de la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et Liberté, sur effectivement la possibilité de couper ou pas ce site internet. Il y a deux députés qui ont voulu que ça soit supprimé et que du jour au lendemain, sur une simple décision, le Premier ministre dise « Stop, là, on bloque ce site internet ». Ça non plus, c'est pas passé, donc c'est relativement rassurant. Mais grosso modo, le reste, c'est ce qu'on connaît dans les régimes un peu totalitaires, hein. C'est possibilité d'arrêter tout le monde n'importe quand. Aucun lieu d'habitation n'est protégé, aucune structure n'est protégée. Alors bien sûr, ils se sont protégés eux-mêmes, hein, bizarrement. Ils n'ont pas protégé, par exemple, les locaux de Radio Canu, donc ils peuvent venir ici quand ils veulent, regarder nos disques durs, les copier, etc. Par contre, ils peuvent pas le faire chez les élus de la République. Ah oui, on se protège. Ils ont voté une loi qui les protège eux, mais qui ne protège pas n'importe quel autre citoyen. C'est très discriminatoire, mais c'est comme ça que ça a été décidé. Bon, voilà, je vous rappelle que les assignations à résidence ont été élargies, facilitées. Grosso modo, nos libertés ont beaucoup reculé. Je vous détaille pas tout ce qu'il y a sur le niveau informatique, mais il y a ils rentrent dans un appartement qui a un ordinateur, un outil technologique, ils n'ont pas le droit de le prendre. Parce que ça, il faut l'action d'un juge encore. Par contre, ils ont le droit d'accéder à ce qu'il y a dedans, de copier ce qu'il y a dedans. Ils n'ont pas le droit d'effacer. Et ils ont le droit de récupérer tout ce qui est en lien avec cet ordinateur. Donc, ce qui aurait pu être enregistré dans le cloud, par exemple, toutes ces choses-là sont accessibles sans passer devant un juge d'instruction. Il suffit qu'il y ait un outil informatique présent, c'est-à-dire un smartphone, un ordinateur. Voilà, ça ouvre la porte aussi à un accès total à nos données numériques, notamment dans le cadre de ces interventions policières.
Alors, tu le disais tout à l'heure, ces manifestations sont annulées pour notre sécurité. Il paraît qu'il n'y a pas assez de forces de sécurisation pour permettre ces manifestations. Et c'est comme ça que les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 vont se faire un peu plus calmement dans les gradins, puisque les supporters...
des autres équipes n'ont pas le droit
de
venir.
Voilà, par exemple, Lyon, les Lyonnais ne vont pas pouvoir aller à Nice, hein, si je connais bien mon planning de match de la Ligue 1. Donc ça amène ce genre de choses. Par contre, au niveau du foot, il faut quand même se dire qu'aujourd'hui a été quand même lancé, alors certes pas en grande pompe, mais quand même il y a eu quelques articles sur le fait que vous pouvez acheter des places pour le premier match au Grand Stade, OL3, le 9 janvier prochain. Les places vont de 30 à 200 euros quand même, hein, tout de même. Ça par contre, voilà, hein, la vie elle continue, le capitalisme il est toujours là. Je vous rappelle, le Grand Stade n'a toujours pas de nom pour l'instant. Et alors donc, il y a un problème de sécurisation. Et alors ce que j'ai appris, c'est que le ministère de la Défense a un petit peu communiqué quand même sur un chiffre, c'est les nombres de demandes pour rejoindre l'armée. Il paraît que c'est en explosion. Ouais. 1500 demandes par jour contre 500 avant ce week-end. Alors certes, en début d'année, ça avait déjà un petit peu monté, mais même quand il y a des campagnes, hein, vous avez vu ces belles campagnes de publicité pour la mer de terre au contact. Hein, oui, c'était le slogan. Donc, ils communiquent un petit peu là-dessus, quand même, pour dire que, bon, ils sont un peu gênés, hein, au ministère de la Défense, mais quand même, c'est les chiffres importants. Alors, ce problème de sécurisation a amené l'annulation de la fête des Lumières.
Oui, alors, on sait que c'est en discussion depuis le début de la semaine, que Gérard Collomb s'était positionné contre. Parce qu'il voulait surtout pas annuler tout ça pour des raisons capitalistes, hein, pas pour des raisons de sécurité. Pour, enfin, oui. Voilà, il faisait passer en fait le business et l'économie avant tout. Alors, ouais. Il n'y a pas forcément de risque, on le rappelle, d'attentat, mais il y a, si vous avez déjà assisté ou traversé la place des Terreaux, par exemple, un jour de la fête de la Lumière, on se dit qu'il y a un pétard, une bousculade, et ça fait 50 morts d'un coup. Hein,
ouais, on peut relire dans le Canard Enchaîné de cette semaine un article très très court qui s'appelle L'ampoule qui a semé la panique. Ça raconte très très bien ce qui s'est passé dimanche à Paris. Comment une ampoule qui éclate fait fuir des gens en panique. Comment un flic qui sort son flingue d'un seul coup parce qu'il se dit qu'il y a des gens qui courent, et ça amène une deuxième couche de panique, et ainsi de suite. Voilà, hein, c'est ça la crainte. C'est assez bien raconté, en fait. C'est bien synthétisé.
Alors, du coup, on ne comprend pas l'interdiction des manifestations, à part pour des raisons politiques. Par contre, l'interdiction de la fête de la Lumière, ça paraissait relativement logique, vu qu'elle est quand même, au niveau de sécurité, toujours sur le fil du rasoir. Hein. On passe pas loin d'accidents chaque année. D'ailleurs, ils ont modifié des choses, hein, au fur et à mesure des années, pour essayer de limiter les risques. Mais c'est difficile de limiter les risques quand on a 3 ou 4 millions de personnes qui arrivent dans une ville qui contient que 600 000 habitants, hein, forcément, et qui sont même pas répartis dans toute la ville, mais qui sont répartis que sur une toute petite partie de la ville. Alors, il a fait semblant d'avoir pris la décision, Gérard Collomb, mais on sait comment ça s'est passé, hein. Manuel Valls lui a dit que c'était pas possible, le préfet lui a dit que c'était pas possible, donc lui, il a botté en touche en disant « j'ai décidé que la fête sera annulée ».
Ouais, alors même dans sa conférence de presse, il a dit mardi soir au Sénat, alors il rappelle qu'il est au Sénat comme ça, j'ai échangé avec le Premier ministre et avec le ministre de l'Intérieur. Il nous rappelle quand même aussi qu'il a du contact. Ouais. Alors, il faut toujours lire entre les lignes avec Gérard.
Donc Gérard, il est à la droite, hein, du PS, on le rappelle. Mais bon, voilà, grosso modo, il a dit je, mais c'est les autres qui ont pris la décision à sa place. Cette fête des Lumières va redevenir ce qu'elle était avant, c'est-à-dire les gens auront le droit de sortir quand même dans la rue, ils vont pas faire un couvre-feu. Je pense qu'il y a des maires qui pensent au couvre-feu, hein, mais là, pour l'instant, il n'en est pas question. Juste le 8 décembre, où les gens auront le droit de mettre des lampions, comme on faisait avant. Finalement, c'était pas si mal que ça, la fête de la Lumière à l'ancienne. Et c'est ce qui va être fait. Bon, il y aura quelques projections des noms des personnes tuées sur les murs de certains bâtiments, et sinon il y aura rien d'autre.
Alors, il va y avoir une œuvre de Daniel Knipper, hein, qui va être mis en avant comme symbole de solidarité avec les victimes. Il va y avoir 200 000 lumignons qui vont être distribués aux enfants et vendus aux Lyonnais et aux Lyonnaises qui en auront envie.
Dont l'argent sera donné à deux associations.
Voilà, puisque chaque année, hein, dans le cadre de la Fête de la Lumière, il y a des associations qui ont été sélectionnées, mis en partenariat pour récolter les fonds. Et puis on a appris que donc la programmation 2015 était tout simplement reportée à 2016. Bon, ça va certainement pas se faire aussi simplement, parce qu'on peut penser que des plasticiens vont peut-être évoluer entre temps, mais c'est en tout cas ce qui a été annoncé, parce qu'il paraît que c'est tellement beau qu'on ne peut pas passer à côté. Donc bon, cette fête des Lumières a amené pas mal de réactions chez les politiques. La plupart ici soutiennent Gérard, sauf un. J'en ai trouvé un.
Qui était enfin, c'est pour pas... la fête de la lumière.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il a une manière de récupérer les choses. Hein, parce que tu... c'est ça un peu hein, l'idée que tu disais aussi, c'est que finalement, Gérard va proposer une seule animation qui sera le 8 décembre en solidarité, en hommage. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez de Christophe Boudot. Je vous en ai déjà parlé. C'est le... Il est au FN. On entend parler de temps en temps. Hein, il se trimballe, par exemple, au conseil municipal à Lyon. Lui, il estime qu'il était, de toute manière, indispensable de revaloriser les racines du 8 décembre à Lyon, qui est un hommage à la Vierge de Fourvière et à nos traditions. Les spectacles lumineux sont certes grandioses, mais l'homme, avec un grand H, ne vit pas seulement de pain et de jeu. Il dit, il aura malheureusement fallu attendre 129 morts pour que le 8 décembre trouve son vrai sens, réunir les Lyonnais, se souvenir ou prier, et aujourd'hui rendre hommage à nos morts. Alors ça, c'est pas de la récupération de petits fachos, je sais pas ce que c'est. Ce qui est intéressant, c'est que même monsieur, le cardinal Barbarin, est pas sur la même position, puisque lui, il dit qu'il regrette l'absence des illuminations dont le caractère populaire n'avait pas effacé les origines. Alors ce que monsieur Boudot, lui, il a toujours détesté, hein, cette nouvelle fête de la lumière, parce que ça enlevait le caractère sacré.
Et d'ailleurs, vous allez voir un petit peu les connivences des religieux et de l'État, puisque les manifs COP 21, on a dit, sont interdites. Le 8 décembre, il y a toujours la fameuse descente flambeau là de l'extrême droite religieuse chrétienne lyonnaise, et donc ils sont un certain nombre quand même. Et ben a priori, ça va être autorisé.
Ouais, ils savent encore pas bien.
Ouais, mais a priori, ça risque d'être autorisé. Ce qui laissera entendre qu'il y a quand même vraiment un double discours entre les. Voilà, on autorise les militants d'extrême droite religieux, on n'autorise pas les autres militants, les militants écolos notamment. À voir si ça se confirme comme ça. Mais voilà, bon, bref.
Enfin, tu parlais tout à l'heure aussi du côté économique de la chose. Gérard fait référence à ce côté économique de l'annulation de cette fête des Lumières lors de sa conférence. Les syndicats de l'hôtellerie ont commencé déjà à réagir. Ouais, ça va être une perte sèche, hein, ça, ils se le cachent pas. Alors ils disent,
ouais,
certes,
enfin,
il y aura
avant,
toujours du business.
Existait pas. Puis elle n'existait pas avant cette fête.
Ouais, mais c'est vrai que maintenant, c'est quand même quelques années que c'est un gros chiffre d'affaires pour
ils sont habitués à être riches.
Voilà, ils se sont habitués sur plusieurs jours. Surtout que la ville de Lyon fait toujours en sorte qu'il y ait quand même des week-ends dedans. Pour l'instant, ça tombe à peu près bien au niveau des plannings. Mais voilà, ouais, c'est aussi, il commence à y avoir un petit peu quelques réactions. Alors, au niveau économique, au niveau du spectacle, il se passe plein de choses. Il faut savoir que dans le spectacle, il y a eu des débats qui sont plutôt sains, la plupart du temps, sur le fait de est-ce qu'on doit maintenir son spectacle, son concert, est-ce qu'on doit continuer. Alors, certes, pour les gens qui étaient très proches des gens du Bataclan, ou des gens qui ont pu être touchés, bah, il y a eu un arrêt, hein, il y a eu des décisions très claires. Pour d'autres, il y a eu la volonté de continuer.
Oui, et qui n'ont pas pu.
Il y en a d'autres. Oui, ouais. Mais par exemple, même à Lyon, ça s'est posé. Que doit-on faire? Il y a aussi des rencontres entre des compagnies. Les gens peuvent bouger. Vous savez, le spectacle, hein, c'est pas juste figé. On n'est pas lyonnais et on joue qu'à Lyon.
Oui, mais par exemple, donc il y a des groupes qui n'ont pas de courage, comme les Foo Fighters qui ont annulé la tournée, voilà. Voilà. Et il y a des groupes qui ont voulu jouer comme Motorhead à Paris et le préfet a interdit le concert.
Hein. Non, c'est vrai, il y a eu des situations très variables.
Voilà,
c'est
des
ça.
Situations variables. Et l'interdiction d'un concert, ça ressemble à tout, sauf à de la démocratie. Hein. Interdire un spectacle de musique pure sans côté politique. Hein. Motorhead, il n'y a pas de côté politique. C'est vraiment triste. Hein. Alors qu'ils voulaient montrer que, surtout qu'ils avaient le discours en disant, mais voilà, on se laisse pas faire et on continue. Oui. C'est mauvais signe pour l'avenir, tout à fait.
Mais bon, c'est vrai que pour les autres, c'était quand même intéressant qu'il n'y ait pas eu non plus quelque chose de trop uniforme et qu'il y ait eu des réflexions, des vraies décisions qui étaient prises un petit peu de partout. Et puis, c'est vrai que y en a, ça tombe pas bien. C'est le cas du film Made in France qui devait sortir hier mercredi. C'est le nouveau film de Nicolas Boukrieff.
Ah, mais ça fait deux fois, lui, il a vraiment pas de bol.
Alors, il a pas de bol parce qu'en plus, je ne sais pas si tu avais vu l'affiche de ce film qui avait commencé à circuler, même qu'elle avait commencé à être diffusée dans certains réseau de la RATP, c'est une arme de guerre posée sur la tour Eiffel.
Ouais, du coup, le sujet c'est ça un peu, c'est...
Alors oui, tout à fait, hein, c'est dans la banlieue parisienne, un journaliste qui va infiltrer une cellule djihadiste, donc ça tourne autour d'effectivement de cette idée, et c'est le distributeur, hein, Pretty Picture, qui a décidé de retarder la sortie, donc on parle maintenant de janvier 2016, alors déjà il y a le sujet, il y a l'affiche, donc tout est un petit peu mis de côté, l'affiche est sûre que je pense que là on n'est pas prêt de la revoir. Le président de Pretty Picture, monsieur Vélez explique que l'idée c'est de faire profil bas, qu'il a eu aucune pression des salles et que il veut éviter toute provocation. Donc ils ont pris cette décision. Ça fait partie des trucs un petit peu ratés. Ils avaient déjà eu pas mal de problèmes pour arriver à financer ce film, qui à la base déjà n'arrivait pas à trouver de financement. Finalement, c'était le groupe Epsis qui avait accepté de financer. Et en janvier, avec les attentats, ils se sont retirés, le groupe M6. Donc ils avaient dû trouver d'autres financements. Et voilà que maintenant, la sortie est encore repoussée.
C'est un sujet... on n'a pas vu le film, c'est pourri. Hein, mais c'est un sujet difficile, je ne sais pas comment il l'a traité. Boukrieff, il est capable du meilleur comme du pire. Hein. Donc, à voir. Mais en tout cas, vraiment, il galère pour faire sortir son film jusqu'au bout. Même quand le film est fini, ça tombe au mauvais moment. Enfin bon, c'était pas prévisible non plus. Un petit mot des États-Unis d'Amérique avec un journaliste qui s'appelle Jack Heidberger qui travaille pour Fox 9, une chaîne locale, qui a été arrêté à Minneapolis, Saint-Paul, lundi dernier. Donc il couvrait une manifestation et les flics l'ont arrêté, comme les manifestants, en disant qu'il avait rien à faire là. Grosso modo, ils n'avaient pas envie de journaliste et ils l'ont arrêté. Alors ce qui est dommage, c'est que pour eux, c'est qu'il est en train de faire une interview, donc il filmait, il enregistrait. Son arrestation, il l'a filmé et enregistré, et que dès qu'ils l'ont libéré, il a tout mis sur Internet. Et comme ça, tout le monde a pu voir les flics dire « Non, il faut que tu arrêtes de filmer, sinon tu vas te faire arrêter ». Donc les pressions sur la presse américaine de la part des forces de répression et finalement son arrestation. Donc il est convoqué au tribunal la semaine prochaine. Mais c'est symptomatique dans ce pays, aux États-Unis d'Amérique, où il y a, avec le premier amendement, il y a quand même une liberté qui est relativement importante. Mais depuis quelques mois, voire un peu plus, il y a un recul relativement important des libertés sur la presse, puisque pas mal de policiers ont arrêté des journalistes dans les manifestations. Qui ont eu lieu suite notamment aux différents assassinats de blacks, essentiellement par des policiers blancs. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Et notamment à Baltimore, après la mort de Freddie Gray en avril 2015, et puis dans d'autres régions, à Saint-Louis, ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, dans le classement Reporters sans frontières des pays et de leur état de leur presse, les États-Unis ont reculé. Ils ont perdu 14 places en 2 ans. Ils sont maintenant 49e sur 180, alors qu'autrefois, ils étaient plutôt dans le haut du pavé. Là, ils régressent. Et oui, effectivement, aux États-Unis d'Amérique, quand on parle de sujets sensibles, notamment ces sujets de meurtres racistes de la part de policiers blancs, ça gêne. Et la presse en prend un peu plein la gueule. Certes, beaucoup moins que jeunes noirs qui se promènent dans la rue au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui rencontrent un policier. Mais ils en prennent quand même plein la tête.
Alors c'est partout pareil. Oui, personne ne veut des réfugiés syriens. Personne. Hein. Et alors aux États-Unis d'Amérique, avec en plus la campagne électorale qui s'agite... Eh bien, ça, les chaussures du fils. Alors, lundi, nous apprenions que 2 États des États-Unis d'Amérique refusaient d'accueillir des réfugiés syriens. Mardi, il y avait 7 États. Et alors, aujourd'hui, il y en a 27.
C'est pas mal.
Ouais, 26 sont dirigés par des gouverneurs républicains. Ça t'étonne pas trop, j'imagine.
Ah, mais il y en a quand même un qui est pas un démocrate.
Ouais. Alors, on rappellera que quand même, M. Obama s'est engagé à accueillir 10 000 réfugiés. Bon, pour l'instant, on en est à près de 200, donc ça avance pas bien vite, hein, quand même. Alors, le truc, c'est que certains républicains ont quand même le cœur ouvert, puisqu'ils ont accepté de recevoir des réfugiés syriens, si ils sont chrétiens.
Ouais, alors, c'est un peu le même discours dans la droite française.
Nous allons y venir. Et certains ont même demandé un test religieux.
Oh putain. Et si t'es athée, t'as pas le droit.
Alors,
les athées, ils sont tués encore plus par l'État. Parce qu'on rappelle qu'ils fuient quand même l'État islamique. Tout le monde dit ils sont méchants, l'organisation de l'État islamique, Daesh, tout ça, c'est des criminels. Et les gens qui les fuient, on les repousse. C'est un peu incohérent comme comportement.
Ouais. Alors ça a fait quand même réagir M. Obama, hein, qui a déclaré, je crois qu'il s'en a étranglé, que c'était une honte.
Ouais,
nous sommes d'accord
ça.
Avec lui. Et alors pourquoi ils n'en veulent pas? Parce que parmi ces réfugiés se cachent des terroristes.
Hein. On rappelle que c'est un truc qui n'a jamais été démontré et que malgré le discours de Marine Le Pen vendredi et samedi, a priori, pour l'instant, ceux qui ont fait péter des trucs à Paris, ben, ils étaient français, voire belges.
Alors je vais te contredire, ça a été démontré. J'ai plus les chiffres de l'étude sous les yeux, mais il y a des gens, un institut très sérieux qui a analysé le nombre de migrants entrant légalement sur le territoire par rapport effectivement aux États-Unis d'Amérique, par rapport au nombre de personnes qui auraient pu être suspectées à un moment de terrorisme, le chiffre est ridiculement bas. Donc je suis désolée de te contredire, ça a
alors,
été prouvé.
Alors moi, l'étude que j'avais vue en Europe, elle disait l'inverse.
Ah bah aux États-Unis, il y a l'institut, hein, les derniers chiffres montrent que a priori, il y a pas de lien entre réfugiés et terrorisme.
Ah mais c'est bien ce que j'ai dit.
Oui, mais moi aussi, mais je te dis, là où je te contredis, c'est que il y a une preuve, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un rapport. Ah d'accord, alors nous ne sommes pas tout à fait compris, mais nous sommes d'accord, c'est déjà une bonne chose. Donc il n'y a pas de lien, hein.
Donc,
les études le montrent.
Voilà.
Voilà. Alors j'en avais trouvé un en août dernier sur France Info, qui a fait une déclaration comme ça, c'est Monsieur Estrosi. Parmi les migrants, nous avons des terroristes de Daesh qui s'infiltrent. C'est-à-dire que cette idée est répandue maintenant un petit peu de partout à travers le monde. Hein. On ne veut plus des Syriens, parce que déjà à la base on n'en voulait pas, mais en plus maintenant on a trouvé une excuse costaud. C'est...
Des Syriens ou des Irakiens d'ailleurs.
Oui d'ailleurs, oui aussi, hein, c'est un peu pareil de toute façon pour une partie de ces racistes, il n'y a pas de différence. Alors on pourrait aussi parler de monsieur Gérard Desimpt, peut-être que vous vous souvenez de ce maire de Charvieux-Chavagneux sur Isère.
Non,
vous
pas loin, ouais.
Vous vous souvenez pas? Il a fait adopter une délibération dans laquelle cette commune se dit prête à recevoir des réfugiés à la condition expresse que ce soit une famille chrétienne. C'est écrit. Alors, ça avait énervé le préfet d'Isère qui avait fait suspendre cette délibération en saisissant le tribunal administratif de Grenoble. Le tribunal a rendu sa décision le 12 novembre dernier. Et en attendant, comme il y a suspension, le maire a décidé, heureux comme il est, le cœur lui aussi tout ouvert, de remettre la délibération en question le 25 novembre prochain. Il insiste, il estime que il voit pas pourquoi on dispatcherait des migrants dont il veut pas chez lui. Et comme il a dit, soit il y a des familles chrétiennes, et ben sinon ils prendront personne.
C'est intéressant parce que dans les Syriens qui fuient, il y a un peu de tout. Il y a des musulmans, alors il y a des sunnites, il y a les alaouites, hein, qui sont une dérivation de l'islam sunnite et qui sont détestés par les sunnites. Il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a un peu de tout. Ça fait une sélection qui est un peu particulière quand même, de se dire il faut tous qu'ils soient d'une certaine religion, de celle-là, peut-être de la sienne d'ailleurs de religion, c'est peut-être pour ça. Il veut vivre qu'avec des gens qui sont comme lui, la même religion que lui.
Alors il y a la Maison des Potes qui a en octobre dernier déjà déposé une plainte contre Gérard Desimpt
pour
incitation.
C'est quoi la Maison des Potes ?
C'est un truc proche de des potes de SOS Racisme.
Ah oui, c'est de touche pas mon pote. Ils ont appelé ça la Maison des Potes.
Voilà, voilà. Donc ils ont des stages SOS Potes, enfin des choses comme ça. Vous pouvez aller voir sur leur site internet. Donc ils ont déposé une plainte contre Gérard Desimpt pour incitation à la haine raciale et à la discrimination. Et là on a appris que SOS Racisme Rhône-Alpes avait aussi déposé au tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir. Donc voilà, hein, c'est partout pareil à travers le monde, on a les mêmes propos. Alors évidemment celui qui bat, je pense en ce moment tous les records, c'est monsieur Donald Trump.
Ouais, mais lui bat toujours tous les records dans les excès.
Je me rappelle que en printemps dernier, alors que commençaient tout juste les primaires, hein, qui venaient tout juste de se déclarer à la candidature à la présidentielle, je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. En tout cas, il est candidat. Il a fait scandale en expliquant qu'il voulait expulser les sans-papiers des États-Unis, les millions de sans-papiers des États-Unis d'Amérique.
Ça concerne beaucoup plus les immigrants d'Amérique du Sud, hein, mais c'était quand même choquant, quoi.
Ouais. Alors mardi, il a remis ça, et puis toute la semaine, il a remis ça dans les médias en expliquant que s'il était élu à la Maison Blanche, s'il devenait président des États-Unis d'Amérique, il allait mettre en place un service chargé des expulsions, c'est-à-dire un truc tout exprès. L'idée, c'est d'aller les traquer. Hein.
Ceci dit, si vous allez au sud des États-Unis, que vous avez la fameuse barrière là, ça fait quand même hyper peur. Hein, ils sont, enfin voilà, ils appliquent déjà localement la politique de Donald Trump.
Alors pour l'instant, c'est vrai que il va très très loin. Hein, il est dans une extrême droite assez terrible. Donc même finalement chez les Républicains, il y en a qui restent quand même un petit peu en retrait par rapport à ces grandes déclarations. Alors il y a un institut de recherche économique qui s'appelle l'AAF, je vous le dis en français, qui a publié un rapport sur cette belle idée de Donald Trump. Alors le rapport estime que les expulsions coûteraient entre 700 et 900 milliards de dollars aux États-Unis. Ah bah oui, mais c'est des millions de gens, nous explique Donald Trump, qu'il faut mettre dehors, hein, parce qu'il s'en est même énervé à pas savoir combien ils étaient, ces gens. Les expulsions réduiraient la population active de 6%, ce qui est certes une bonne nouvelle pour le chômage, mais aussi une mauvaise nouvelle, puisque
pour l'économie.
Certains États du Sud, comme le Texas, par exemple, allait tomber dans une récession. Et voilà, ouais. Parce qu'ils vivent aussi d'une économie parallèle.
Mais ça, mais, voilà. Puis même, toutes les études économiques ont montré que chaque fois qu'il y a de l'immigration, ça enrichit le pays, les deux pays d'ailleurs. Le pays d'où sont issus les immigrés et le pays dans lequel ils arrivent, puisqu'ils font tourner l'économie. Donc tout le monde est gagnant finalement sur ce truc-là.
Alors, je continue avec les États-Unis. Hein. Rand Paul, qui est un sénateur républicain, a hier expliqué qu'il appelait à une suspension du programme d'exemption de visa pour les touristes de certains pays, en particulier pour des Européens. Donc, il estime que, par exemple, il dit un peu n'importe quoi.
Il a peur des Européens maintenant.
Ouais, alors en particulier des Français, puisqu'il estime que même si il dit que la France est une amie de grande, une grande amie depuis longtemps, excusez-moi, il estime qu'il y a quand même des citoyens français qui nourrissent trop d'hostilité envers la civilisation qu'il représente et que donc, ben non, il faudra empêcher les Français d'y aller. Il est sympa, hein, ce Rand Paul, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de truc. Il est bien à l'extrême droite, lui aussi. Et puis, un truc aussi que je m'attendais pas à voir là, en ce moment dans les débats aux États-Unis, c'est la NRA. Vous connaissez hein, cette association qui milite pour que tout un chacun ait un flingue à la ceinture.
C'est enfin, la National Rifle Association.
Exactement, avec l'accent, donc le lobby pro-armes à feu aux États-Unis d'Amérique. C'est le Daily News dans une édition new-yorkaise qui attaque la NRA en expliquant que les élus républicains bloquent le vote d'une loi qui interdirait aux individus suspectés de terrorisme d'acheter des armes aux États-Unis. Donc ils se font rentrer dans l'art en disant, vous êtes des sales patriotes nationalistes, tout ça, mais vous tenez tellement à vos armes, vous détestez les Arabes, hein, c'est le cas de la NRA, ils sont quand même assez racistes, mais vous êtes prêts à laisser n'importe qui avoir une arme du moment que, surtout, on ne touche pas à ce principe du droit des armes pour tout le monde. Ça a fait réagir quelqu'un qu'on n'avait pas, en tout cas de mon côté, entendu depuis un petit moment, c'est Michael Moore. Je vous rappelle, Bowling for Columbine, par exemple. Il s'est attaqué, lui aussi, à la NRA, comme d'habitude. Et il dit, le problème, c'est pas que les Français n'ont pas d'armes pour se défendre, c'est que la NRA facilite leur accès aux terroristes qui les tuent. Voilà, c'est autour de cette phrase que le débat est en train de s'étendre aux États-Unis d'Amérique. Alors, on va continuer. D'ailleurs, ça fait le lien avec les États-Unis d'Amérique. Le Black Friday, je vous le disais en introduction, vous savez ce que c'est ?
Non.
Vendredi noir. Déjà, c'est ça que ça veut dire. Alors à la base, c'est une opération commerciale qui est née aux États-Unis d'Amérique. Une opération commerciale pendant laquelle, les boutiques, les magasins font des promotions gigantesques et ça se passe le lendemain du jeudi de Thanksgiving. C'est un truc vieux et c'est lancé depuis quelques années en France.
Ouais, en Europe, grosso modo, ils essayent de développer le Black Friday chez nous.
Et le Black Friday devait avoir lieu et va avoir lieu la semaine prochaine, vendredi prochain.
C'est le mot Black Friday, donc vendredi noir, ça rappelle ce qui s'est passé le vendredi 13. Quoi.
Et là, le capitalisme, il est gêné aux entournures, quand même. La Fédération e-commerce et vente à distance a fait savoir que ce n'était plus un terme très approprié, compte tenu de l'actualité. Alors, il y en a plein qui ont changé. Par exemple, le groupe Klépierre, qui a pas mal de centres commerciaux, est passé de Black Friday à jour XXL. Unibail, oui.
C'est ridicule, quand
écoute,
même.
Unibail Rodamco, vous savez, là, c'est ceux qui ont le truc à Confluence. Alors, bon, ils ont eu moins de soucis parce que leur opération, elle s'appelait Unexpected Days, puisqu'ils utilisent le slogan Unexpected Shopping. Et ils ont juste enlevé le sous-titre Un Black Friday à la française. Ça s'est passé à la trappe. Auchan a pris la décision de modifier l'appellation de son opération commerciale Black Friday, apprend-on dans un communiqué, par respect pour la mémoire des victimes des dramatiques événements survenus en région parisienne le vendredi 13 novembre. Alors ça va s'appeler maintenant Crazy Weekend. Et voilà. Et puis ça va se poursuivre le samedi Ouais. Non, parce qu'ils en profitent du coup. Ils agrandissent le truc. Spartoo, vous connaissez, c'est un des leaders de la vente de godasses sur Internet. Ça va s'appeler maintenant Friday Shopping.
Et n'empêche que si vous n'avez pas fait anglais à l'école, vous ne comprenez plus rien de ce qui se passe dans le monde moderne. Ils sont incapables d'utiliser une autre langue que l'anglais.
Voilà. Alors la Fnac, si.
Ah, ils ont fait un truc en français, en belge, en italien. Ils pourraient changer de langue un peu.
Alors attention, original. Parce que c'est pas le slogan non plus du siècle, hein, la Fnac. 4 jours unique Fnac.
Ouais, c'est pourri même.
Ah mais non, mais les mecs, ils ont dû travailler vite, quoi. Alors Darty, effectivement, c'est The Big Weekend. Voilà, donc, bon, évidemment, tout le monde est en train de se mobiliser pour changer ces termes. Le problème, c'est qu'il y a une agence marketing qui s'appelle Air Advertising, toujours de l'anglais, cette agence est la conceptrice du site blackfridayfrance.fr, et donc c'est eux qui animent un petit peu toute cette campagne. Ils sont un peu dans la merde.
Ils font le lien et du coup, eux, ils... Mmh. Ouais.
Voilà, et donc là, le capitalisme est dans le caca. Alors tiens, je voulais juste finir, je vais très très vite pour dire que vous pouvez rejoindre, si vous êtes entrepreneur patron, l'appel de monsieur Marc Simoncini. Marc Simoncini, vous savez, c'est il a fondé Mythic, il est le patron maintenant de Sensi, il a financé tout un tas de machins. En 2011, il avait signé l'appel avec d'autres patrons, Taxez-nous, qui prenaient une contribution exceptionnelle des riches pour participer à l'effort budgétaire. En 2012, il avait menacé finalement de faire ses valises face à la réforme de l'ISF. Finalement, il s'était associé au mouvement des pigeons. Et puis, aujourd'hui, il interpelle tous les riches, excusez-moi, les entrepreneurs, qui ont choisi de s'exiler, de partir. Il leur demande de revenir. Il explique que c'est pour sauver la France, puisqu'en fait, il a passé son week-end à se documenter, hein, je le cite, sur l'état de l'armée, de la police, de la justice, et il en est ressorti effrayé. La France n'a plus les moyens d'assurer sa sécurité. Les effectifs et les moyens de l'armée n'ont cessé d'être réduits. La police est débordée, œuvre avec du matériel vétuste. Voilà pourquoi tous les entrepreneurs qui créent les richesses, qui sont les forces vives du pays, doivent rentrer en France.
Ah bah putain.
Ah ouais, ça te laisse sans voix, disons.
Ah ouais, non mais là, ils osent tout, les patrons.
Ouais. Alors bon, il n'est pas trop suivi. Alors ceux qui sont à l'étranger, j'ai suivi un petit peu les réponses qu'il a eues sur son compte Twitter. C'est pas très apprécié, hein. Il y en a qui sont un peu stigmatisés et pointés du doigt. Il y en a qui font des réponses un petit peu toutes pourries en disant oui.
Ceci dit, il a raison quelque part.
Oui. Voilà, je veux dire... Alors, il a été suivi. Monsieur Jean-Charles Mill, dirigeant de la société Premium Film, société qui est située dans le 11e arrondissement, ce qui explique aussi peut-être son geste, 11e arrondissement de Paris, a été déposé un chèque de 5 000 euros à l'État français pour la lutte contre le terrorisme. Il explique qu'il faut être réaliste, ça va coûter très cher et les entreprises doivent donc aider. Alors lui dit que ça représente 1% de son chiffre d'affaires. Il est sûr que certains actionnaires pourraient facilement se passer de dividendes pendant une année ou deux pour le bien commun. Et bien c'est le terrorisme donc qui va casser. C'est la lutte de classe, vous y croyez, vous?
Non.
Non, bah, t'as bien raison.
Ils sont isolés. Oui, une info qui risque de devenir rare, hein, parce que dans l'état d'urgence, ça pourra plus vraiment être possible, c'est le refus de prélèvement ADN. Vous savez, quand vous êtes arrêté pour une manifestation, vous allez en garde à vue, on peut vous obliger à donner votre ADN. Si vous dites non, vous êtes poursuivi pour refus de prélèvement d'ADN. Quelquefois, vous sortez innocenté de l'action, parce qu'on vous avait mis en prison pour une mauvaise raison. Eh ben, en fait, vous ressortez avec la poursuite sur le prélèvement d'ADN. Donc, vous êtes rentré innocent au commissariat et vous sortez coupable par les flics. C'est les flics qui vous ont rendu coupable. Ou la loi, enfin, c'est pas mal quand même. Là, il y avait 16 militants de Greenpeace qui avaient refusé le prélèvement ADN lors d'une opération d'intrusion à la centrale nucléaire de Fessenheim en 2014. Ils ont été relaxés. Alors pour des raisons de procédure, tout court, puisque lors de leur garde à vue, ils devaient être assistés par un avocat, ce qui est la procédure obligatoire au niveau européen. Ça l'a pas été. Du coup, ils avaient été relaxés. Ça avait été ça en première instance. Là, c'est la cour d'appel. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient été relaxés et l'État avait fait appel. Le parquet très exactement, mais le parquet c'est le bras armé de l'État, il avait fait appel. Donc là, c'est confirmation en appel de ne pas juger ces 16 militants pour refus de prélèvement d'ADN. Bravo, ils ont gagné. Bon, par une question de procédure, c'est jamais très glorieux, mais c'est toujours plus glorieux que de perdre. Donc c'est déjà ça pour eux. Ils ne laisseront pas leur ADN dans ces temps sécuritaires. Vous allez voir qu'il y aura bientôt une proposition que tous les Français donnent leur ADN d'office, comme ça, dès qu'on ira quelque part, on laissera une trace. C'est pas encore arrivé, mais ça devrait pas tarder. Alors, pour terminer par une mesure, une info environnementale, c'est une très mauvaise nouvelle, comme tu l'as annoncé en début de ce Canu Info, puisque la FDA, la Food and Drug Administration, c'est l'agence des États-Unis d'Amérique qui décide de ce qui se passe sur l'administration, ont autorisé la vente pour manger d'un saumon génétiquement modifié, le saumon de l'entreprise qui s'appelle AquaVantage. Donc ils l'ont modifié avec un gène qui permet au saumon de grandir 4 fois plus vite. C'est la classe internationale. Donc, il n'y a aucun intérêt pour vous au niveau gustatif et au niveau contenu du poisson. C'est pas sûr qu'il soit aussi intéressant qu'un saumon qui grandisse tranquillement dans son petit bassin avec des millions d'autres, hein, parce qu'il faut quand même pas rêver non plus. Mais là, il ira juste 4 fois plus vite, donc ils vont gagner plein d'argent. C'est le premier animal transgénique qui est autorisé au niveau mondial, hein, pour de la consommation. Jusqu'à maintenant, on avait des plantes transgéniques, on avait intégré un gène pour modifier des choses. C'est le premier animal transgénique. J'espère que ce sera le dernier, mais c'est pas sûr du tout. Ce qui est compliqué, c'est que aux États-Unis, ça a mobilisé. Il y a eu une pétition qui a été envoyée à la FDA, qui a recueilli 2 millions de signatures. C'est quand même beaucoup, même s'ils sont presque 200 millions. Ça fait quand même 1% au moins de la population à signer cette pétition. Mais ben voilà, ils n'en ont rien eu à faire. Alors des États ont réagi, comme la Californie ou l'Alaska. On dit qu'ils souhaitaient, eux, l'interdire sur leur territoire. On va voir ce qui est possible. La problématique aux États-Unis, c'est que le consommateur, dont une partie se sont exprimés en disant qu'ils étaient contre, ils pourront pas choisir. Parce qu'aux États-Unis, on n'étiquette pas les produits génétiquement modifiés. Du coup, le consommateur, quand il achète son saumon ou son maïs, il ne sait pas si c'est un produit génétiquement modifié ou si c'est un produit issu d'une sélection naturelle. Donc voilà, c'est une très mauvaise nouvelle pour les petits saumons, pour les consommateurs qui mangent du saumon, et grosso modo pour la planète, hein. Parce que les risques environnementaux n'ont pas été, bien sûr, pris en charge. On ne sait pas ce qui se passe quand ce saumon qui grandit 4 fois plus vite va s'échapper d'un élevage, retrouver dans la nature et finalement sûrement prendre la place du saumon qui grandit normalement. Et on aura après beaucoup moins de diversité avec toutes les problématiques qu'on peut avoir quand une espèce devient prédominante. Et puis bon, voilà, il y aura peut-être même d'autres problèmes qu'on n'imagine pas encore.
Alors écoute, comme il nous reste quelques minutes pour terminer, je voudrais revenir un petit peu sur ce bleu, blanc, rouge et ce safety check sur Facebook et revenir sur l'attentat de la semaine dernière à Beyrouth.
Ouais, parce que là pour le coup, on en avait parlé, donc très brièvement, on avait annoncé dans le Canu Info qu'il y avait eu un attentat.
Il n'y avait pas beaucoup d'infos.
Alors qu'on avait annoncé 16 morts, et en fait il s'est avéré qu'il y avait beaucoup beaucoup plus de morts dans cet attentat. Puisque
43
finalement... Mais je crois que c'est même beaucoup plus encore.
Ah, mais c'est encore
ouais,
plus,
c'est plus de 200 maintenant.
Ah, oui.
Ouais, donc c'est un gros attentat réorganisé par l'État islamique contre le Hezbollah. On rappelle que le Hezbollah, c'est le parti chiite libanais qui se bat aux côtés de Bachar al-Assad contre l'État islamique et contre d'ailleurs aussi l'armée syrienne libre. Voilà, tous les opposants grosso modo à Bachar al-Assad. Et eux, ils n'ont pas eu beaucoup de soutien quand il y a eu leur attentat, bizarrement.
Non, alors par exemple, il y a eu tout de suite une vraie émotion sur les réseaux sociaux libanais sur cet attentat parisien. Vraiment, tout de suite, il y a eu des tas de messages de solidarité qui sont arrivés. Et puis, il y a eu un moment, il y a commencé à y avoir des réflexions qui sont apparues. C'est nous. Et pourquoi nous, on n'a pas le bouton safety check comme là, les gens, ils peuvent l'avoir pour savoir si les gens, ils vont bien, s'ils étaient au Bataclan. Alors, il y a eu des réactions, quand même, qui sont arrivées très, très vite, hein, le samedi. Et dès le samedi, il y a eu une réaction de Facebook qui a donc déclaré que ce bouton safety check, il a mis en place bien avant, hein, le Bataclan, puisqu'à la base, c'est un principe, j'appelle ça un bouton parce que c'est un clic, hein, mais enfin bon, c'est un principe à la base de qui était lié plutôt aux problèmes climatiques, hein, aux désastres. Voilà, c'est-à-dire que c'était comme ça que ça avait été en place. Et puis ils l'ont ouvert le vendredi. Alors ils ont dit Facebook effectivement a dit que ça y est maintenant il allait pouvoir être automatisé pour tout ce genre de moments d'une manière plus large. A peut-être pris aussi conscience à Facebook qu'il n'y a pas que le monde occidental à coller, quoi, à soutenir. Alors en tout cas Facebook essaye de nous faire croire qu'ils soutiennent un petit peu tout ça, mais trouve toutes les parades. Facebook a reçu pas mal de demandes pour virer un certain nombre de vidéos qui appellent à la haine. Facebook a souvent répondu des choses que ben pour l'instant ça posait pas problème. Donc d'un côté on a eu un Facebook qui prétend vouloir être solidaire des victimes des attentats, et puis on a un Facebook qui n'oublie pas qu'il y a du profit et du pognon à se faire. Et puis c'est comme ce petit filtre bleu blanc rouge qui est apparu un petit peu de partout, hein, dès le samedi, dimanche, qui s'est répandu. C'est un truc qui avait été proposé par Facebook, c'est-à-dire si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouviez mettre sur la photo de votre profil hein, le drapeau tricolore en filigrane. Et donc on s'est retrouvé comme ça avec ce bleu, blanc, rouge de partout sur Facebook. Et puis c'est bizarre parce qu'il y a des gens, quand on en réalise, ils avaient fait marche arrière de 3 jours après, c'est-à-dire qu'il y a quand même une réaction de se dire, attends là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il faut dire qu'il y a des gens qui commençaient à dire, mais attends, il faut donc que ça soit vos victimes sur votre territoire, donc vous mettez le drapeau français, voilà. Donc il y a quand même eu un petit peu à un moment des remises en question, mais alors ça a été quand même là aussi sans réflexion, hein. Les gens ont mis cette chose sur leur photo de profil. Voilà, faut jamais oublier que Facebook c'est pas notre ami, hein. Ils sont là pour faire du pognon. Oui, ils ont fait même des jeux de mots sans même m'en rendre compte avec le coup des amis. Non, ils sont là pour faire de l'argent, il y a de la publicité, il y a des vidéos pourries qui continuent à traîner. D'ailleurs, il y a tout un tas de vidéos sur les sites des plateformes vidéo qui ont été diffusées suite à ce week-end. On voit des gens courir sur certaines, et ben certaines de ces vidéos sont déclenchées avec des publicités devant.
Ouais, c'est un peu la classe, quoi.
Grande classe. Ouais. Ça, c'est la grande, grande classe.
N'empêche qu'au niveau mondial, on s'est rendu compte qu'il y avait une échelle des populations. On savait déjà que le français, quand il meurt, c'est grave. Le Nigérien, quand il meurt sous Boko Haram, c'est pas grave. Et le Libanais, on l'a oublié. Là, pour le coup, il était pas du tout.
Oh, mais ils ont l'habitude, les Libanais, tu sais.
Ils ont un petit peu l'habitude, mais c'est quand même assez. Alors, ils ont aussi l'habitude des attentats, malheureusement pour eux. Parce que c'était pas le premier, hein, que on en avait parlé aussi de l'attentat précédent qu'avait subi déjà le Hezbollah dans la plaine de la Beka. C'était des religieux qui s'étaient regroupés d'ailleurs, qui avaient subi un attentat. Donc voilà, c'est une situation qui est tendue là-bas aussi, et il faut en parler autant que quand ça se passe, alors j'allais dire en bas de chez soi, pour nous, finalement, Paris, c'est presque aussi loin que Beyrouth, hein, donc on n'est quand même pas tout à fait à côté de Paris.
Tu sais que même le Hamas a critiqué hein, des actes d'agression et de barbarie sur ces attentats à Paris. Par contre, le Hamas s'est réjoui de la nouvelle agression au couteau aujourd'hui en Israël. Voilà, c'est tout le poème du Hamas.
Allez, c'est la fin de ce Canu Info. On va terminer par un petit agenda. Et je vais commencer en lien avec la situation israélo-palestinienne. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a eu une nouvelle agression. Alors on l'appelle ça une agression, mais moi je dirais un acte désespéré d'un Palestinien contre son occupant, puisque ça s'est passé en territoire occupé. Hein, donc il a agressé un envahisseur, quelque part. Vous savez, le petit l'envahisseur, il a le petit doigt relevé là, comme David Vincent dans Les Extraterrestres. Ben là, lui, son envahisseur, il était plutôt israélien et c'était plutôt un colon. Donc voilà, une nouvelle agression en Cisjordanie. Et en lien avec tout ça, le collectif 69 organise la semaine prochaine, mardi, une rencontre avec Jeff Halper. Jeff Halper, on le connaît un petit peu puisque c'est le coordinateur de l'ICAD. L'ICAD, c'est le comité israélien contre la démolition des maisons palestiniennes. C'était avant tout des architectes hein, qui avaient monté ce comité pour donc des architectes israéliens qui étaient outrés de l'attitude du gouvernement israélien qui détruit les maisons quand ils arrêtent quelqu'un qu'ils estiment comme étant un terroriste. Donc ils font des punitions collectives contre les familles, du coup, parce que dans la maison habitait en général pas qu'une seule personne, et donc les familles se retrouvent à la rue. Donc Jeff Halper, il fait partie de ce comité de défense, finalement, des Palestiniens. dans une forme un peu particulière, celle liée aux destructions de maisons, hein, qui est une pratique courante de l'État d'Israël pour mettre la pression sur les populations palestiniennes. Donc il sera là, à Lyon, c'est l'occasion de discuter avec lui, il va faire une conférence, il y aura un débat. Alors il faut parler un petit peu anglais, mais il y aura des gens qui vont traduire, hein, parce que lui, il parle anglais. Ça sera donc mardi 24 novembre à 19h30 à la MJC Mon Plaisir, qui se trouve 25 avenue des Frères Lumière, au métro Sans Souci, hein, c'est à peu près à côté, de 19h30 donc à 22h30, une soirée débat organisée par le collectif 69. Ensuite, alors justement, on parlait des manifs et des rassemblements qui sont un petit peu limités. Il y a encore un appel à rassemblement à défaut d'une manif. Ça sera samedi à 15h place des Terreaux. Et ça tombe très très bien parce que c'est pour lutter contre la manipulation, notamment de l'extrême droite, de la droite et du Parti Socialiste, sur les faits d'actualité qu'on a vécu la semaine dernière. La manif, c'est une manif de soutien aux migrants et aux migrantes, hein, puisqu'ils sont effectivement pris à partie assez régulièrement par tous les racistes. Donc c'est samedi à 15h place des Terreaux pour dire bienvenue aux migrants et aux migrantes. C'est devant l'hôtel de ville, très exactement. Donc je pense que c'est place des Terreaux devant l'hôtel de ville. Et puis mardi, j'ai parlé de mardi tout à l'heure pour la Palestine, organisé cette fois par Jamais sans toi. Alors c'est Jamais sans toi avec un T, c'est-à-dire c'est le collectif qui lutte pour soutenir les familles qui sont sans logement. C'est un collectif qui est au départ né, hein, dans les écoles, hein, puisque c'est des instituteurs ou des professeurs des écoles, avec les familles qui ont monté ça pour empêcher, pour essayer de faire bouger la société, parce qu'ils voyaient, eux, dans leur classe, des enfants qui n'avaient pas d'endroit où dormir le soir. Ils organisent une soirée de soutien aux familles qui sont sans toit à l'école Michel Servet, qui est sur les pentes de la Croix-Rousse, celle qui est juste à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse. Donc il y a une soirée de soutien mardi, ça commence à 18h. Il y aura des lectures de textes. Vers 19h, il y aura un concert de Martin et ses antécédents, chansonnier lyonnais de talent. Et il y aura une soirée ensuite avec de la soupe, on pourra manger, il y aura une buvette. C'est à prix libre et en plus, quand vous allez acheter à manger, etc., ça aidera ces familles qui n'ont pas de lieu où habiter. Voilà, c'est donc à l'école Michel Servet, qui est sur les pentes de la Croix-Rousse. J'ai perdu le nom de la rue, mais c'est rue d'Alsace-Lorraine, je crois, tout au bout de la rue d'Alsace-Lorraine. Non, c'est pas ça? Bon, bref, c'est en bas de la place Croix-Paquet, à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse. On soutient, ça sera au gymnase. Donc en fait, c'est dans l'école, quand vous arrivez par en bas, il y a un escalier qui monte, l'entrée du gymnase, elle est juste au-dessus de l'école. Voilà, je vous ai tout dit.
Ouais, mais c'est lié à l'école, donc si jamais il n'y a pas les petits panneaux, oui, pour t'expliquer, ça serait
Les profs, ils auront su.
Ça serait surprenant, ouais, de leur part.
Les professeurs des écoles. On vous souhaite une bonne soirée, malgré la situation pourrie dans laquelle nous sommes. Que du bonheur quand même. Et d'ici quelques minutes, l'émission, c'est peut-être la rediffusion de Papillon en direct. Oui, c'est ça, on me fait signe que oui. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain pour le prochain Canu Info et la semaine prochaine pour le Canu Info du jeudi.
Ciao.
Bye bye.